DW, le club de l'auditeur.
On dit quand des éléphants se battent, ce sont les zèbres qui souffrent. C'est nous qui souffrons, malheureusement. On va continuer à souffrir.
Comment les populations vivent-elles les tensions entre la CEDEAO et les trois pays qui ont décidé d'en claquer la porte, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso? On en parle dans ce club des auditeurs et internautes de la DW, animé par Mireille Drone, comme tous les samedis à 17h05 et tous les dimanches à 7h, temps universel. Bienvenue à toutes et à tous. Après le retrait du Niger, du Mali et du Burkina Faso, comment la CEDEAO va-t-elle réagir et quelles pourraient être les conséquences sur les économies, notamment sur la libre circulation des personnes et des biens de ces trois pays, s'interroge Demba de Bamako. Et il n'est pas le seul. Tandis que certains sont déterminés à aller jusqu'au bout, quitte à faire des sacrifices, d'autres sont inquiets. En témoignent ces deux Nigériens, habitants de Gaya, près de la frontière avec le Bénin.
Moi je dis que ouverture, levée ou pas les frontières nigéro-béninoises. Et dès lors que la France est installée au niveau du Bénin et du Nigeria, nous soutenons à 100% les décisions du président de la République, son Excellence Abdourahmane Tchiani, qui a fait cas que, en tout cas, si le Bénin ou le Nigeria veulent que les frontières soient ouvertes, il faut faire partir les Français. Malgré toutes les sanctions, nous sommes résilients et nous allons vers résilients jusqu'à ce que Allah qui a créé le Niger va nous nourrir, Inch'Allah. Après 7 mois où on nous a suspendus, on n'a pas de médicaments, on n'a pas d'électricité, tout est coupé, nous ne sommes pas morts. Pendant 7 mois, si nous avons pu résister, nous pouvons continuer.
Moi, je ne peux pas dire que je suis sûr que les frontières elles vont rester comme ça fermées. Parce que nos chefs d'État là, qui ont pris cette décision, ce n'est pas pour rien qu'ils ont pris la décision. Maintenant, c'est un problème étatique. Nous, peuple du Niger, on ne peut pas dire quelque chose par rapport à ça. Ce sont des problèmes étatiques, c'est entre eux. Je peux te dire maintenant, depuis l'avènement du 23 juillet, nous, peuple nigérien, on n'a pas de problème avec le peuple béninois. On n'a pas de problème avec le peuple du Nigeria. On n'a pas de problème avec le peuple du Tchad. Nous n'avons pas de problème avec le peuple sénégalais. C'est un problème étatique. D'après mon point de vue, si on peut ouvrir les frontières là, je parle au nom du peuple de Gaya, ça peut nous arranger. Parce que quand tu vois l'économie des Gaya maintenant là où nous sommes là, hein, on a observé qu'il y a eu rabaisse et du côté du Bénin. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est un problème étatique. Parce que s'ils veulent nous faciliter notre bonne collaboration avec les deux peuples, il n'y a pas de problème.
Des propos recueillis par Fadel, un confrère de Gaya au Niger. Alors rappelons que le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont annoncé fin janvier leur intention de quitter la CEDEAO avec effet immédiat. Mais dans les faits, les textes prévoient un délai d'un an pendant lequel les trois pays doivent respecter leurs obligations vis-à-vis de l'institution sous-régionale. Notez aussi que le 25 février, la CEDEAO a finalement levé la plupart des sanctions contre le Niger et le Mali notamment. Réunie en sommet extraordinaire à Abuja, au Nigeria, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a aussi noté que le retrait du Niger, du Mali et du Burkina Faso aura des implications sur les plans politiques, socio-économiques, financiers et institutionnels pour les trois pays concernés et pour la CEDEAO en tant que groupe. Ce retrait des trois États membres pourrait entraîner l'arrêt ou la suspension de tous les projets et programmes de la CEDEAO qui se chiffre à une valeur supérieure à 500 millions de dollars, dit l'organisation dans son communiqué. Mais cela ne semble pas impressionner les autorités au pouvoir à Niamey, Ouagadougou et Bamako, pas plus que la levée des sanctions de la CEDEAO d'ailleurs. La souveraineté n'a pas de prix, écrit Ben de Ouagadougou sur Facebook. Youssouf du Mali observe lui que 500 millions de dollars n'ont jamais arrêté les jeunes à prendre le désert et l'océan. Laisser la CEDEAO faire du bruit, l'Alliance des États du Sahel a même oublié son existence, affirme Murtala du Niger sur Facebook. Mustapha de Niamey rappelle, lui, que cette sortie du Niger, du Mali et du Burkina Faso ne va pas se faire tout de suite, mais le processus semble irréversible.
Effectivement, il y a un délai à respecter et en dehors même du délai qu'il faut respecter, il y a des procédures.
Oui.
Mais quand même, comme les trois pays, donc à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso, ils ont décidé ensemble de quitter la CEDEAO. Moi, je pense que bon, c'est une décision commune et qu'il n'y a aucune procédure. Ils ont accepté eux-mêmes de faire partie de la CEDEAO et s'ils décident de sortir de la CEDEAO, moi, je pense que bon, c'est aussi simple et facile que ça.
Oui, mais qu'est-ce que ça peut avoir comme répercussion donc sur les imports, les exports, sur le panier de la ménagère?
Donc, en ce qui concerne les importations et les exportations, bon, comme vous savez, ces trois pays-là, le peuple de ces trois pays-là est vraiment un peuple résilient. Mmh. Donc, le Burkinabé, le Nigérien, le Malien, c'est un peuple résilient. Quelle que soit la difficulté, moi, je pense que, bon, ils peuvent s'en sortir. Et d'ailleurs même, ils sont en train de s'en sortir parce que de l'autre côté, ils sont en train de vouloir ou même de créer ce qu'on appelle une alliance des États du Sahel, AES.
Oui.
Donc, je ne vois pas de difficultés.
Et vous avez l'impression que la population adhère, parce que ça, c'est la décision, évidemment, des autorités. Vous pensez que la population, de façon générale, le citoyen moyen, adhère à cette décision? Il n'y a pas de crainte?
Bon, en ce qui concerne le citoyen, comme c'est déjà la décision de la CEDEAO, initialement, de sanctionner le Niger à travers toute une batterie de sanctions.
Oui.
Donc moi, je pense que le peuple, lui, de son côté, bon, on ne peut pas vous empêcher quelque chose et encore revenir vous dire, bon voilà, on vous retend la main après vous avoir mis à l'agonie. Donc,
vous pensez que ça, c'était une erreur de la CEDEAO?
C'était vraiment une erreur de la CEDEAO et d'ailleurs une erreur fatale parce qu'on ne peut pas subitement, dès le lendemain du coup d'État, donc la CEDEAO a fait sortir son communiqué pour dire que le Niger est retiré de ceci, le Niger est retiré de cela. Donc vous voyez, moi je pense que bon, par rapport à tout cela, le peuple soutient quand même son gouvernement sur la décision de quitter la CEDEAO et de créer une autre alliance une fois pour toutes, parce que bon, ce serait une avancée et ce serait vraiment une autre forme de liberté, comme on dit. Donc, voilà.
Mais pour les commerçants, oui.
Le fait de s'engouffrer dans le gouffre de la CEDEAO, le Niger, le Mali, le Burkina, ils ont l'expérience depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Concrètement, s'il faut faire un bilan, qu'est-ce que la CEDEAO a apporté comme contribution? Et aujourd'hui, si la CEDEAO dit que bon, voilà, on lève les sanctions, voilà, ceci, c'est parce que elle-même, la CEDEAO, est en train d'agoniser. Vous voyez la crise au Nigeria, avec le Naira qui est en train de perdre sa valeur. Aussi le Bénin qui est en train aussi d'agoniser. Donc vous voyez, de l'autre côté, et bien que le président togolais il est avec la CEDEAO, mais quand même il a tendu la main au Niger après la fermeture des frontières du Bénin avec le Niger.
Mais la CEDEAO a quand même apporté quelque chose, c'était la libre circulation des biens et des personnes. Parce qu'il y a quand même, on sait très bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de mouvements, les gens passent d'un côté et de l'autre de la frontière, il y a des va-et-vient du commerce, des va-et-vient de personnes et de marchandises aussi. Et donc le fait de ne pas avoir de taxes par exemple, ou pas de besoin d'avoir de visa, c'était quand même une bonne chose, non? Vous ne pensez pas?
Oui, en fait quand on dit la CEDEAO est en train de faire la promotion de la libre circulation, mais avant même les sanctions, quand vous rentrez, il y a toujours des taxes. Il y a toujours des. Quand vous prenez des machines pour rentrer au Niger ou bien pour sortir du Niger, il y a toujours les taxes. La CEDEAO, là, c'est juste un nom. Ils sont en train de dévier de leur objectif. La CEDEAO n'est pas en train de respecter ses principes elle-même. Et le peuple nigérien, le peuple burkinabé, le peuple malien, ils sont là en train de survivre et jusque-là. Moi, je pense que Dieu merci jusqu'à présent. Et d'ailleurs, même, c'est ce que toute la population est en train de penser.
Que la CEDEAO n'a rien apporté et que finalement, on peut se débrouiller tout seul. Mais d'un autre côté, aucun État n'est autonome et il faut bien passer des accords. Donc là, il y a un projet donc, de l'Alliance des États du Sahel. Ce sont trois pays. Mais vous pensez qu'il y a une chance que ça aille après au-delà, qu'il y ait une sorte de nouvelle organisation parce qu'aucun pays ne peut fonctionner tout seul? On est tous les pays sont interdépendants pour les exportations des biens, de différentes choses.
Tous les pays sont interconnectés ou bien interdépendants, effectivement. Et c'est pourquoi nous condamnons la CEDEAO d'avoir fermé les frontières de façon subite. Parce que là, il faut des ultimatums avant la fermeture. Il faut dire, voilà, ce que nous allons prendre comme sanction, comme décision en tant que CEDEAO. Donc malheureusement, ils sont sortis en bloc pour dire que bon voilà, on ferme tout, on ferme ceci, on ferme cela. Et ils ont pensé que peut-être le peuple nigérien ou béninois ou burkinabé vont peut-être s'asphyxier. Mais malheureusement, bon, les gens sont en train de survivre. Et c'est une nouvelle expérience que le peuple de ces pays-là ont déjà pris. Et moi, je pense que, bon, comme ils ont eu à survivre depuis longtemps, et ils vont continuer à survivre, quelle que soit la situation. Et le fait de créer ça, l'alliance, l'AES, comme on dit, c'est une alliance qui permet de sécuriser le Sahel, pas plutôt une organisation comme la CEDEAO.
Ah, vous pensez, vous, que c'est plutôt l'aspect sécuritaire qui va compter dans cette alliance-là?
C'est l'aspect plus sécuritaire qui va compter.
De mobiliser les ressources militaires ou de coordonner mieux, peut-être, la lutte.
Effectivement, de coordonner mieux la lutte et d'avoir des renseignements selon les insécurités.
Donc vous êtes plutôt confiant quant à l'avenir, si je comprends bien.
Oui, effectivement. On est toujours confiant en ce qui concerne l'avenir. Parce que presque tout le monde, au début de ces sanctions-là, quand vous posez des questions aux gens, ils vont vous dire, bon voilà, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais quand même, comme on a survécu jusque-là, donc moi je pense que bon, ça va continuer. Hein, et puis bon, les peuples vont survivre et ils vont vaquer à leurs préoccupations sans pour autant sentir quelque chose. Voilà, même notre, comment on appelle ça, nos billets qui étaient dans les banques étaient bloqués. Donc malgré cela, les gens, ils arrivent vraiment à s'en sortir et ils se sont sortis jusque-là.
Donc vous pensez que si les gens ont réussi à tenir quelques mois comme ça, ils vont pouvoir continuer aussi à l'avenir et se réorganiser? Il n'y a pas de crainte de déstabilisation?
Oui. Surtout la question de la nouvelle monnaie, là. Donc, le Sahel est en cours de réflexion. Donc, si ces États-là, ils ont leur propre monnaie, moi, je pense que c'est déjà fini. Donc, on ne sera plus dans le gouffre du franc CFA ou d'autres monnaies.
Mais ce n'est pas dit que les autres pays de la CEDEAO vont emboîter le pas des trois pays de l'Alliance du Sahel ou des États du Sahel? Ou vous pensez que si, finalement, le mouvement est enclenché, que tout le monde va prendre le train en marche, pour ainsi dire?
Oui, c'est ce qu'on est en train de pressentir avec les autres pays. Donc, bien qu'ils ne se sont pas exprimés de façon explicite, mais quand même, donc on comprend à travers leur intervention que, bon, voilà, quoi, qu'il y a une belle lueur, quoi, qui est en train de s'annoncer à travers la création de cette nouvelle monnaie pour ces trois États pour un début. Donc, et tout pays qui veut adhérer, ces trois pays-là, ils vont l'acquérir à bras ouverts.
Donc, wait and see, attendons pour voir. Voilà. Mais en tout cas, espérons pour tout le monde un avenir meilleur.
Effectivement, oui, espérons.
Et moins d'inquiétude, d'incertitude, d'instabilité.
Oui, effectivement.
Très bien, Mustapha, je vous remercie. Et puis, bonne continuation alors. Bon succès à vous.
Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et bon courage à vous.
Merci. Au revoir, Mustapha.
Abdoulaye, de la région de Dosso au Niger toujours, affirme de son côté que la levée des sanctions par l'organisation sous-régionale est une bouffée d'oxygène pour les populations qui ont lourdement payé le prix des produits de première nécessité durant la période de musellement du pays. Mais il se demande pourquoi la CEDEAO a maintenu les sanctions pendant plus de 6 mois alors qu'elle n'a pas atteint l'objectif visé. Le choc de ces sanctions a motivé les militaires à la création de l'Alliance des États du Sahel, alliance qui a considérablement réduit la force de la CEDEAO en ressources et en effectifs, écrit-il. Et les pays sanctionnés ont déjà tissé des liens avec d'autres partenaires en vue de contourner les sanctions. Du coup, le revirement de la CEDEAO n'a pas les effets escomptés, conclut Abdoulaye. Latif de Lomé observe lui aussi que la levée des sanctions de la CEDEAO arrive trop tard, alors que le Niger notamment lui a déjà tourné le dos et que ces sanctions n'ont de toute façon pas atteint leur objectif, qui aurait été, selon cet internaute, de faire souffrir le peuple nigérien afin qu'il provoque des troubles et renverse le régime militaire pour réinstaller le président déchu. Maintenant, étant donné que les nouvelles autorités nigériennes sont très remontées contre leurs voisins béninois, le Niger va-t-il accepter de rouvrir sa frontière de Gaïa avec le Bénin? Latif se dit curieux de voir. En attendant, même si le Bénin a rouvert, lui, sa frontière, la circulation et les transports de marchandises n'ont donc pas repris. Et Saliou de Boïkon au Bénin attire l'attention sur la détresse des populations.
Malheureusement, cette frontière du côté de Gaïa ne sera pas ouverte de sitôt. Si l'on en croit les informations qui nous parviennent de Niamey, les autorités nigériennes ne vont pas ouvrir cette frontière de sitôt pour une simple raison. La présence de l'armée française au nord du Bénin, non loin de cette frontière. Donc pour des raisons de sécurité, les Nigériens refusent d'ouvrir cette frontière-là. Donc la population du côté de Manaville et du Bénin en général va prendre son mal en patience. On va continuer à souffrir de la fermeture de cette frontière. Vraiment dommage. On dit quand des éléphants se battent, ce sont les zèbres qui souffrent. C'est nous qui souffrons, malheureusement.
Notez qu'avant la fermeture des frontières, le corridor béninois accueillait 80% du fret nigérien via le port de Cotonou à un millier de kilomètres de Niamey. Les sanctions de la CEDEAO à l'encontre du Niger ont donc aussi entraîné des chutes des revenus portuaires au Bénin. Mais une bonne nouvelle quand même, c'est la mise en service ce 1er mars du pipeline Niger-Bénin. Long de près de 2000 km, cet oléoduc qui relie le sud-est du Niger à la côte béninoise permettra d'exporter le pétrole brut du Niger vers les marchés internationaux via le terminal pétrolier de Semekpoji au Bénin. Le Niger en attend une augmentation de ses recettes pétrolières et le Bénin, la perception de droits de transit, pour compenser les recettes douanières perdues du fait des sanctions. Une délégation des douanes nigériennes devrait séjourner au Bénin de ce dimanche 3 mars jusqu'au 8 mars pour échanger avec les autorités béninoises des modalités des opérations de ce pipeline. Au Burkina Faso maintenant, Alidou de Ouagadougou affirme aussi que malgré les grosses difficultés de la vie quotidienne, les gens autour de lui sont déterminés à rompre avec le passé. On l'écoute.
En tout cas actuellement, quand on prend un peu dans les foyers, actuellement la vie est très difficile. Très difficile du moment où les gens ont quitté les campagnes, surtout ceux qui sont les déplacés internes. C'est pour dire qu'encore plus, la vie est devenue très chère parce que bon, on se dit peut-être qu'il n'y a pas de moyens. Bon, les commerçants, les gens n'arrivent plus à faire le commerce et les refuser. Ils ont quitté leur lieu de résidence. Ils sont actuellement en ville. Ils ne se retrouvent pas. Bon, d'autres étaient un peu, voilà, c'était l'agriculture, l'élevage, ainsi de suite. Ouais. Donc, bon, arrivés en ville, ils ne peuvent pas se retrouver.
Ils n'ont plus de revenus.
Oui. C'est pour dire qu'actuellement, effectivement, la vie est extrêmement dure. Si peut-être les gens arrivent à avoir 3 repas par jour, vous allez voir que peut-être c'est devenu 1 seul repas par jour. Mmh. Voilà. Mais une chose qui est importante dans ça, malgré la souffrance, les gens sont prêts à assumer. Malgré que c'est tellement difficile, ils sont prêts à assumer. Et dans les différentes villes, même, il y a une vieille citoyenne qui est là. Bon, actuellement, même à partir de 20h seulement, vous arrivez un peu à Ouagadougou, dans les États Wayou, la dernière fois, les gens sont là, la vieille citoyenne. Il y a des volontaires comme ça dans les quartiers qui sont là dans les ronds-points et qui sont assis. Bon, les gens, voilà, ils peuvent jusqu'à karma à 2h du matin, 3h du matin. Donc, il y a un sentiment de patriotisme que les autorités ont fait naître dans le cœur de la population. Mais sans oublier que vraiment la vie est devenue extrêmement compliquée chez les gens. De la vie chère, la vie est extrêmement difficile actuellement. Les réfugiés qui sont venus en ville, je ne les trouve pas. Voilà, ils ne sont pas qualifiés pour rester en ville. Il n'y a pas de boulot. Bon, vous allez voir peut-être des mendiants, des gens qui circulent pour essayer d'avoir comment manger. Mais malgré tout ça, le soutien est là. Et surtout même la nouvelle monnaie qu'ils sont en train de vouloir, je ne sais pas le projet, c'est à quel niveau. Les gens attendent de pied ferme l'arrivée de cette nouvelle monnaie. C'est tout ça, c'est pareil, hein, des sentiments de patriotisme qui est au niveau de la population.
C'est ça, ils font confiance en fait. Il y a une volonté ou une curiosité d'essayer quelque chose de nouveau, si je vous comprends bien.
Voilà, vous avez très bien compris. Et même, et ce qui est étonnant, ce n'est pas d'intellectuel, hein, c'est la population lambda, celui qui est là, le paysan. Lui-même, quand il raisonne, c'est étonnant. Hein, si vous êtes là, vous les entendez raisonner dans la langue même, vous êtes vraiment étonné. Parce que bon, depuis 1960, quand il y a des gens, ils expliquent même la monnaie. Depuis longtemps, bon, on tape votre monnaie en France, là-bas, on veut vous donner. Ce sentiment même déjà, ce n'est pas facile. Donc, les autorités ont aussi créé un sentiment de patriotisme au sein de la population, je répète encore.
Ouais. Et donc, il n'y a pas de crainte de ne plus pouvoir aussi facilement circuler avec les autres pays, de demander un visa, par exemple, ou de devoir payer des taxes, tout ça.
Effectivement, cette crainte est là et la crainte c'est effectivement au niveau de la Côte d'Ivoire. Bon, mais les gens se disent peut-être qu'il y aurait une solution. Si vous prenez par exemple les dernières pressions qu'on a fait, vous avez vu qu'ils ont, la CEDEAO a ouvert les frontières.
Oui.
Voilà, la Côte d'Ivoire avait fait sortir une note pour interdire que les denrées, ils ont cité un certain nombre d'aliments qui ne doivent pas rentrer au Burkina, au Mali, au Niger, mais ils ont levé cette interdiction, ça dépasse pas une semaine. C'est pour dire que, bon, les gens se disent peut-être qu'il y aurait une autre forme de coopération, du moment peut-être où ceux qui ne vont pas vouloir rentrer dans l'AES, il y aurait une manière, parce que chacun a besoin de l'autre. C'est cette idée-là qui est là.
Bien sûr, il y a une interdépendance, voilà. C'est clair. Voilà. Personne ne peut vivre de façon autonome.
Et même si vous voyez, même le port de Togo, le Lomé, ils ont compris rapidement, le Togo n'a pas fermé ses frontières. C'était le Bénin qui a fermé, et puis la Côte d'Ivoire.
Oui, donc, mais entre-temps, le Bénin a rouvert, mais c'est fermé du côté du Niger.
Voilà, le Bénin a ouvert, mais les Nigériens disent qu'ils ne vont plus. Donc, c'est pour dire que quand vous prenez le port de Cotonou, le port de Lomé, c'est les Sahéliens qui alimentent plus sur ces ports-là. C'est pour dire que tout le monde gagne, en fait. Donc, bon, ils n'ont pas peur parce qu'ils se disent que même si la sortie là est effective au sein de la CEDEAO, il y aura en tout cas une autre forme de coopération.
Et il n'y a pas trop de crainte non plus en ce qui concerne éventuellement les investisseurs de l'étranger qui risquent d'être un petit peu frileux.
Effectivement.
Peut-être.
Oui, effectivement. La dernière fois, j'étais en train de causer avec des amis. Vous savez, je ne connais pas très bien le Mali, mais au Burkina, ici, je vous dis que c'est très rare de voir une famille où il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Voilà. C'est pour dire qu'il y a une très forte population burkinabé résidant en Côte d'Ivoire. Et là même, c'est pendant des dizaines d'années. Donc, cette crainte-là, c'est à ceux qui sont déjà installés là-bas. Bon, apparemment, il y a une petite crainte. Pas ceux qui sont au Burkina ici, mais ceux qui sont là-bas, effectivement, ils se créent un peu comment ça va se passer. Mm-hmm. Est-ce qu'on ne va pas les refouler? Est-ce qu'on ne va pas les imposer à une autre forme de taxe souveraine? Voilà. Mais ceux qui sont sur place au Burkina ici, les gens sont déterminés. Mm-hmm. Et chaque jour, quand vous voyez un groupe de gens qui est assis, c'est le débat d'actualité comme ça.
Tout le monde ne parle plus que de ça.
Voilà, les gens ne parlent plus que de ça. Les débats qui alimentent actuellement les différents grains, c'est ça, les débats. Voilà. Et même les vents, voire même peut-être qu'il y aura même d'autres pays qui vont se lier à l'AIS. Parce que, bon, effectivement, quand vous regardez le taureau n'a pas respecté les décisions, les différentes décisions de la CEDEAO. Hein.
Oui.
Ils n'ont pas fermé les frontières. Il y a beaucoup de choses que le taureau n'a pas fait.
Mm-hmm.
Je pense qu'il y a beaucoup de paramètres qui donnent une force aux autorités de l'AIS.
Donc voilà. Vous êtes plutôt aussi confiant.
Bon, je suis confiant parce que nous autres qui sommes allés à l'école jusqu'à l'université, effectivement, bon, nous sommes confiants. Parce que quand on regarde déjà même notre lecture, on voit que la CEDEAO est en train de reculer. Bon, même le discours a changé. Les sanctions avec la Guinée, vous voyez, le Niger, c'est voilà. Et le Bénin est en train de négocier actuellement pour qu'on ouvre les frontières. Parce que c'est le Niger qui alimente. Moi, j'étais au port de Lomé et Cotonou, vous savez, plusieurs fois. Quand vous arrivez là-bas, c'est rare. Tous ceux qui alimentent le port là-bas, c'est des Burkinabés, des Maliens et des Nigériens.
Et oui.
Voilà. Alors que le Togo est un pays qui fonctionne. Et le Bénin. Le Bénin fonctionne. La fiscalité. Si vous voyez, l'économie du Bénin est basée sur la fiscalité. Patrice Talon, c'est ça. Voilà. Et le taureau profite actuellement. Donc, bon, moi, je suis confiant parce que je me dis qu'il y aura une autre forme de collaboration entre les États.
Des accords bilatéraux.
Et pourquoi pas même d'autres pays même vont rejoindre l'AIS plus tard. Voilà.
Pour remplacer peut-être la CEDEAO, vous pensez à terme?
Non, pas remplacer la CEDEAO parce que c'est 3 contre, je ne sais pas, c'est 13 ou 100 beaucoup.
Oui, oui.
Voilà. Et le CFA n'a pas d'avenir. Ça, c'est mon point de vue. Donc, alors que l'AIS, c'est carrément, vous voyez, la rupture est nette là-bas. Voyez.
Donc, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre. Et les gens souffrent pour l'instant, mais ils sont prêts à faire des sacrifices pour passer à autre chose.
C'est ça. Vous avez très bien compris mon point de vue. C'est pas facile, mais je suis convaincu qu'ils sont déterminés à accompagner les autorités, ce qui concerne le Burkina Faso ici. Et moi-même, je pars loin pour dire que dans 5-10 ans, les pays qui sont dans le CFA, même si la monnaie est créée au niveau du sein de l'AIS, les pays vont rejoindre, puisque les présidents vont partir.
Mais vous pensez que les militaires au pouvoir vont finir aussi par céder la place à des présidents élus?
Je pense qu'ils vont céder la place. Mais en fait, s'ils cèdent la place sans peut-être préparer le terrain, le problème qui est là, j'ai oublié même un sujet qui est très important. Les gens n'ont plus confiance aux politiciens.
Oui.
Ça, je vous assure, parce qu'ils se disent que les présidents sont mal élus. Burkina, par exemple, si vous prenez les dernières élections, c'est 800 000 électeurs contre près de 22 millions. Ça veut dire que les gens ne sont pas allés voter. Ils ont boycotté cette matière. Donc, pour moi, les gens n'ont plus confiance aux présidents. Donc, je ne sais pas trop bien, mais je pense que dans les projets de l'AIS, là, c'est pour, ils vont essayer de voir la manière de réélire même les présidents. Je ne sais pas, ils vont parler de grands électeurs ou quoi, pour que le président qui soit élu, là, la population ait confiance à ce président. Voilà.
D'accord.
Ouais, merci.
Mais en tout cas, c'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée et puis bonne continuation. Alidou.
À bientôt, à bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir.
L'organisation humanitaire Human Rights Watch rappelle de son côté que les voix dissidentes sont réduites au silence au Burkina Faso. Des avocats, des journalistes et des militants des droits humains font l'objet depuis plusieurs mois maintenant d'intimidations de plus en plus brutales. Certains sont enlevés et envoyés au front. Le 15 février, les avocats burkinabés ont observé un arrêt de travail et paralysé de nombreux tribunaux pour exiger la libération de l'avocat Guy Hervé Kam, enlevé par des hommes en civil et toujours détenu depuis. Il est le cofondateur du Ballet Citoyen, un mouvement qui avait joué un rôle capital dans la chute du régime de Blaise Compaoré en 2014. Voilà, on se quitte pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos magazines, informations et vidéos sur notre site internet dw.com/français et notamment les nouveaux épisodes de notre série intitulée « Dans l'ombre de la colonisation allemande ». Sur ce, bonne écoute, bon week-end à toutes et à tous et à très vite. Au revoir.